Aux environs de minuit, Paul et Silas, en prière, chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment en furent ébranlées. Toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les liens de tous les prisonniers sautèrent. Tiré de son sommeil, le geôlier vit les portes de la prison ouvertes. Pensant que les prisonniers s'étaient évadés, il saisit son épée et allait se succomber. Paul lui cria d'une voix forte : « Ne fais rien de funeste pour toi, nous sommes tous là. » Le geôlier demanda de la lumière, se précipita à l'intérieur et, tout tremblant, il se jeta aux pieds de Paul et de Silas. Puis, les ayant fait sortir, il leur dit « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ils lui répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils annoncèrent alors la parole du Seigneur à lui et à tous ceux qui vivaient dans sa demeure. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Sans plus attendre, il reçut le baptême, lui et tous les siens. Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en famille d'avoir cru en Dieu. Le jour venu, les stratèges envoyèrent les lecteurs dire au geôlier : Relâche ces hommes. Le geôlier communiqua cette nouvelle à Paul. Les stratèges envoient dire de vous relâcher. Dans ces conditions, sortez donc et partez en paix. Mais Paul déclara : Ils nous ont fait battre en public, sans condamnation. Nous qui sommes citoyens romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, c'est clandestinement qu'ils veulent nous jeter dehors. Il n'en est pas question. Qu'ils viennent en personne nous libérer. Les lecteurs rapportèrent ces propos aux stratèges qui furent pris de peur en apprenant leur qualité de citoyens romains et vinrent s'excuser auprès d'eux. Puis, ils les libérèrent en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de prison, Paul et Silas allèrent trouver Lydie, virent les frères pour les encourager. Puis, ils repartent.
Ok, donc un petit mot de présentation. Vous vous rappelez donc que Paul et Silas ont été battus, puis emprisonnés, sans motif valable, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, et surtout sans aucun jugement digne de ce nom. Ils sont déjà meurtris par les coups, et ensuite par les entraves qu'on leur a mis aux pieds. La question, c'est comment vont-ils passer cette première nuit au fond de leur cachot ? Ont-ils le moral ? Et quel est leur espoir pour les jours à venir ? Voilà un petit peu où on en est au moment où notre récit prend forme. Et donc, je vous avais posé une première question sur le comportement de l'apôtre et de son compagnon Silas. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez été battu, vous êtes emprisonné injustement, quelle est votre réaction et si on la compare à la leur, qu'est-ce qu'on apprend ?
Ils chantent les louanges de Dieu. Les autres prisonniers, les autres.
Et donc, est-ce que ça vous paraît être une attitude normale ? Que nous aurions, nous ? Ou est-ce quand même quelque chose d'un peu spécial ?
De chanter ?
Oui.
Ben, je pense quand tu sais, ils s'imaginaient qu'ils allaient mourir, peut-être. Quand tu es dans une situation comme ça, ben, la seule chose à faire, c'est de prier. Au fond d'une prison, que tu peux faire.
Mm-hmm.
Et à deux, d'en chanter.
Chanter, ça paraît joyeux.
Oh. Ouais.
Ah non, s'ils chantent des psaumes.
Ouais.
Voilà. Ils s'encouragent, parce que fond de la prison.
Oui, mais ils chantaient les louanges de Dieu.
Ça donne l'idée qu'ils sont vraiment centrés dans leur pensée sur Dieu lui-même. Mmh. Et apparemment pas sur eux-mêmes.
Pas trop sûr.
Ils ne doivent pas oublier leur situation, mais...
C'est-à-dire qu'ils la sentent bien, leur situation.
Oui.
Parce qu'on se dit, voilà, quand même le texte démarre à minuit. C'est peut-être plus tout à fait l'heure de chanter non plus. Tu chantes peut-être au début, non. Mais le texte est vraiment fourmi d'indications intéressantes sur leur comportement qui paraît complètement incroyable. Et donc, le grec dit « priant ». Donc, la forme de prière, ce sont les cantiques. Et en fait, je pense que tout le monde a deviné qu'ils chantent des psaumes. Qui sont des prières. Les prières, c'est des psaumes. Les psaumes, c'est des prières. Donc, c'est ça que le texte grec essaye de nous faire comprendre. Sans doute en hébreu, pas nécessairement en grec, en tout cas, sauf s'ils suivaient la traduction de la Septante, ce qui m'étonnerait. Ils sont sans doute vraiment plongés dans des prières liées au psautier lui-même.
Des psaumes, ils connaissent par cœur.
Oui. Alors, il y a une première raison... vraisemblablement, et bon, les psaumes, ils peuvent être nombreux, on en citera peut-être quelques-uns tout à l'heure. Il y a une raison très simple pour laquelle ils sont éveillés.
Leur position.
Oui, déjà, leur position. Vous imaginez, vous avez été frappé en fin de journée sur le dos, et la seule position possible... quand on allait faire au pied, c'est de s'allonger sur le dos pour ne pas devoir être trop dans la tétanie des muscles. Hein, voilà. Mais là, ils ne peuvent même pas s'allonger. Donc, ils essayent tant bien que mal de rester dans une position semi-assise, pas du tout confortable. Et il n'est donc pas question de dormir. Il est impossible de s'endormir suite à ce qu'ils ont vécu. Donc, plutôt que de perdre son temps à se morfondre dans des jérémiades, etc., je pense que leur vient naturellement l'idée de prier. Alors, tu as raison, s'ils priaient pour eux, s'ils étaient centrés sur leur ego, ça aurait une autre dimension. Alors, c'est pas ce que le texte dit. Le texte dit bien que c'est tourné vers Dieu, une louange à Dieu. Et là, on peut aussi se poser des questions. Comment se fait-il qu'il loue Dieu dans cette situation? Et pour qui? Et pourquoi? Est-ce que je te loue pour avoir été battu? Est-ce que je te loue? Tu vois, il y a quand même des questions à se poser. D'autant que, je le rappelle, il n'y a aucun espoir de sortie. Il n'y a pas l'ombre d'une indication qui leur dit « on sortira demain, on nous libérera demain ». Ils ont été arrêtés illégalement, emprisonnés illégalement. Ça pose problème.
C'est pas grave. Rentre chez toi.
Alors, première raison peut-être de se tourner vers Dieu, c'est peut-être quand même de chanter des psaumes de délivrance. Pourquoi pas? Il y en a. Je peux en citer le psaume 22, le psaume 23 qu'on connaît bien. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, etc. Donc il y a toute une série de prières du psaume qui peuvent soutenir, si vous voulez, le rapport à Dieu. Sous-entendu, ils comptent sur Dieu, parce que lui seul peut les sortir de là. Donc dans leur esprit, c'est très clair qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux autorités, puisqu'ils sont déjà enfermés sans procès. Donc que peuvent-ils espérer de la part de ces hommes-là? Et puis en plus, non seulement cela, mais ils ont été battus. Et en plus, je pense qu'il y a quand même en eux une sorte d'interrogation, sinon de certitude, sur comment Dieu nous a-t-il fait venir en Europe, faire un si grand voyage, pour finalement finir notre vie là, soit par la mort, soit par l'emprisonnement, arbitraire, sans date de sortie. Pour eux, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, ils se tournent vers Dieu pour lui dire « Écoute, nous, on est là pour la propagation de l'Évangile. Que vas-tu faire pour que ce soit possible ?» C'est une première chose. Peut-être chantent-ils aussi parce qu'ils sont encore en vie, malgré tout. Célébrer la vie. Je pense à certains psaumes. On n'a pas le temps de lire, mais j'en cite quelques-uns. 26, 63... 71, qui font référence à, au vivant, à la vie avec Dieu, etc., etc. On peut imaginer que dans leurs souvenirs, hein, puisque les psaumes, ils les connaissent quasi par cœur, ils puisent dans le psautier pour soutenir leur foi, leur vie. Peut-être chantent-ils aussi parce qu'ils sont heureux, et ça c'est saint Paul qui le dit aux Philippiens, de souffrir pour Christ. Ce n'est pas pour eux qu'ils souffrent, ce n'est pas à cause de ce qu'ils ont fait, le geste qu'ils ont posé qui était un geste de délivrance sur cette petite esclave. Et ce texte de Philippiens, vous le connaissez, Philippiens 1, verset 29, dit « Car il vous a fait la grâce à l'égard du Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. » Et d'ailleurs, ce n'est pas le seul texte où Paul aborde l'idée qu'il y a une part à prendre dans la souffrance du Christ. Si on est fondamentalement dans la voie messianique, on ne peut pas y échapper. Et donc, quand je parle de ça, de cette identification aux souffrances du Christ, je parle d'une sorte d'encouragement dans l'épreuve. Si le Christ est passé par là, nous passons par là. Est-ce que le Christ s'est mis en colère? Est-ce que le Christ a crié contre l'injustice? Non, le Christ, tout au contraire, a accepté, a subi, a pardonné jusqu'au bout, sur la croix, à cette infamie qu'on lui a imposée et à la mort violente qu'on lui a imposée. Et donc, je pense à quelques psaumes, là aussi, qui sont des psaumes de détresse, des psaumes d'appel au secours, etc., au psaume 41, par exemple, au psaume 90, au psaume 129, et on pourrait en ajouter, hein, chaque fois, je n'ai pris que quelques exemples. Et puis je me suis dit, mais peut-être aussi que dans cette louange qui monte vers Dieu, il y a de la reconnaissance pour la délivrance de cette petite esclave. Eux subissent dans leur corps la peine, si vous voulez, d'avoir posé cet acte, mais ils en sont heureux, ils ne sont pas déçus, ils ne sont pas devenus amers par rapport au fait qu'à cause de cette délivrance, ils subissent ce qu'ils subissent actuellement. Et j'ajoute, en l'occurrence ici, que peut-être sont-ils aussi heureux et dans la louange parce que Timothée et Luc ont échappé à ça. Timothée et Luc sont libres, ils sont encore actifs dans la communauté naissante, dans la maison de Lydie ou au bord de la rivière. Donc ils se disent que malgré tout, l'œuvre se poursuit. C'est un sujet sans doute de reconnaissance là aussi, et notamment parce qu'ils sont libres, sains et saufs, quoi. Et enfin, je pensais aussi à que le chant, enfin là on parle de manière un peu plus large que le psautier, mais le chant peut être l'expression d'une réelle liberté. Combien de gens sont allés à la mort? Alors je ne pense pas qu'aux religieux, je pense aussi à des laïcs, à tous ceux qui, pendant la guerre, ont subi les tortures de la Gestapo, ou les fausses fusillades, ou le camp de concentration. Un certain nombre expriment dans le chant la liberté. Ils sont encore un homme, ils sont encore un être humain. En tout cas, une liberté plus grande que celle des magistrats qui les ont fait battre et enfermer. Ou même, on pourrait dire que le chant est parfois une forme de protestation contre la violence. On l'a vu dans l'histoire maintes fois que des hommes et des femmes chantent contre la violence des abuseurs, contre la violence de ceux qui sont au pouvoir, de ceux qui ont la charge du pouvoir, un peu par défiance, mais aussi parce que ça apporte quelque chose à la personne humaine d'être dans le chant plutôt que dans la jérémiade ou la colère de ce qui arrive. Voilà. Et on doit aussi s'imaginer, ça c'est difficile pour nous, que ces chants ont lieu en pleine nuit. La nuit, c'est jamais un truc très positif pour les hommes. Donc en pleine nuit, résonne dans une prison la voix de deux hommes qui chantent des psaumes. Pour moi, c'est clair, si je suis un autre prisonnier, ou je trouve ça complètement fou, ou j'en déduis qu'ils ont une confiance aveugle dans leur Dieu, c'est aussi une possibilité, donc une forme de témoignage, si vous voulez, mais peut-être aussi une source d'encouragement pour tous les prisonniers, là, qui sont dans cette prison, qui, eux, ont été punis sans doute pour quelque chose de valable, quelque chose qu'ils ont fait pour lequel ils payent, mais en tout cas ça peut être un encouragement et consolation pour tous ceux qui écoutent. Et ce qui me fait dire ça, c'est le petit détail que je vous avais demandé d'analyser à la question 2. Pourquoi Luc prend le temps de nous préciser que des prisonniers écoutaient leur chant? Et avant de vous céder la parole, je veux souligner une chose, c'est qu'en grec, le verbe utilisé a quelque chose à voir avec la position d'auditeur, comme si on est dans un concert. Voilà, on écoute donc attentivement. Le verbe grec utilisé, c'est pas simplement écouter, c'est entendre, dans le sens de je me mets à la disposition de ce qui se passe, j'y suis attentif, j'y ai même un intérêt quelque part. Donc la fameuse écoute soulignée par Luc a le but de nous amener à l'idée que les prisonniers sont eux aussi impactés par le chant de ces deux juifs. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des chants en hébreu,
ouais,
même si vous ne connaissez pas la langue, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de, je sais pas, de spirituel, de mystique, de bref, de beau, qui fait que je peux comprendre que des hommes qui souffrent dans leur cachot soient tout d'un coup interpellés par cette espèce d'attitude qu'on pourrait qualifier d'un peu folle, hein, quelque part, parce que les autres prisonniers ne sont pas aveugles. Ils savent que ces hommes ont été battus, ils sont arrivés en sang, ils sont mis au fer, si vous voulez, et comment est-ce possible? Donc, je pense que c'est un témoignage très impactant pour le groupe de prisonniers qui se trouve dans cette prison.
Est-ce que les prisonniers comprenaient l'hébreu éventuellement?
Je ne le pense pas, parce que c'est pas une langue vernaculaire. La langue vernaculaire officielle de l'Empire, c'est le grec et le latin.
Ouais.
Voilà.
Alors, donc, malgré le fait que peut-être ils ne comprenaient pas les paroles, c'était le fait qu'ils chantaient,
oui,
et qu'ils entendaient.
Leur attitude, leur comportement, ça fait la différence quelque part. Et ce qui me fait penser, enfin, ce qui me fait affirmer ceci, c'est justement le fait que Luc insiste là-dessus en nous disant, mais finalement, les prisonniers sont dans une bonne disposition. Ils écoutent, j'allais presque dire religieusement, les chants de ces deux hommes, alors que l'attitude aurait pu être, comme on le sait que c'est comme ça que ça peut se passer, une attitude de la part des autres prisonniers de moquerie, de ricanement, d'insultes. En plus, c'est en pleine nuit, foutez-nous la paix, on veut dormir, tu vois. On pourrait imaginer que ça foute le feu aux poudres dans la prison, et c'est pas du tout ce qui se passe, quoi. Et donc voilà, en pleine nuit, au milieu de la nuit, ils sont en train de chanter des psaumes malgré tout ce qui vient de leur arriver. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner, quoi. Est-ce que c'est un peu comme ça que vous aviez compris ce petit détail lucanien? Parce que sinon, on peut se demander pourquoi. Qu'est-ce que ce détail vient faire s'il n'a aucune importance, pourquoi Luc prend le temps de nous dire quelque chose?
Que l'Esprit Saint agissait à ce moment-là aussi. Qu'avait l'Esprit Saint aussi, je veux dire, qui a mis une espèce de grâce. On a du mal à l'imaginer, mais quand même. Même s'il ne comprenait pas les paroles, il s'était porté par ce chant, par la voix, qui devait être... forte, mais en même temps forte dans la hauteur, mais puissante par rapport aux paroles qu'il disait. Il devait le sentir, quoi.
C'est un peu comme nous, alors que nous soyons laïcs ou religieux, lorsque nous assistons à un concert
de
musique classique, de Bach, de gospel, tu peux pas être indifférent. La musique te porte quelque part dans un ailleurs qui est 100 fois meilleur que ton vécu habituel, quoi. Il n'y a rien à faire. Donc c'est un peu comme ça que je le ressens. Cette espèce de cancer improvisé au fond d'une prison porte tout le monde au nu. Et c'est le silence total, le calme plat. Mais tu voulais ajouter quelque chose.
Mais je me dis que ils ont déjà tellement vécu de choses avec Dieu que peut-être ont-ils encore aussi l'espérance d'une délivrance, mais aussi je pense au fait qu'il a eu en vision, avant d'arriver à Philippe, qu'un Macédonien lui apparut, vient nous délivrer. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu d'abord Lydie, bon, il a vu probablement sa famille et son entourage aussi, comme on a vu. Il y avait probablement aussi des hommes dans l'histoire, mais est-ce qu'ils avaient encore, grâce à cette vision, l'idée qu'à Philippe, c'est pas fini, il y a encore des choses à faire? C'est vrai qu'il pourrait se dire, les deux autres sont là, nous, on va peut-être y passer. C'est difficile d'imaginer ce qui s'est passé dans cette prison. En plus, tu as bien décrit la semaine passée qu'ils avaient subi des outrages physiques sur le dos qui devaient faire terriblement mal, en plus des cèpes. C'est compliqué d'essayer d'imaginer ce qu'ils ont pensé, imaginé, espéré ou désespéré. Mais d'un autre côté, on a tendance, nous, à lire en exaltant la parole de Dieu. Et c'est logique. On a tendance donc à voir un Paul comme un surhumain qui surpasse tout. D'un côté, ils ont tellement vécu, comme j'ai dit, de choses qu'ils doivent vraiment voir le Seigneur tout proche. Et nous aussi, on a déjà ressenti le Seigneur tout proche. Mais au point que eux l'ont vécu, on n'a pas eu toutes ces expériences. Peut-être pas tous.
Oui, et ce que je disais tout à l'heure, qui rejoint ce que tu dis maintenant, c'est que finalement, à quoi bon être appelé à être l'apôtre des païens si c'est pour mourir à peine arrivé, après avoir fondé 3-4 églises dans l'Asie mineure, et puis t'arrives en Europe, et là, première église que tu mets en place, boum, tu y passes. Paraît quand même un peu bizarre. Quoi. Tu vois, je crois qu'il y a vraiment, en Saint Paul, il y a une foi profonde que Dieu lui a promis quelque chose, lui a donné une vocation, et que cette vocation, il veut l'assumer jusqu'au plus lointain, puisqu'on sait qu'après, par des concours de circonstances, il va viser Rome, le cœur de l'Empire, carrément. Il se dégonfle pas. Donc je pense qu'il y a quand même tout ce background derrière, et ce qu'il a déjà enduré lui a chaque fois montré que Dieu était à leur côté. Alors que la fois où il a été lapidé, comme on l'a vu, ça aurait pu être la fin.
Ouais, c'était loin.
Et voilà. Mais là, Dieu a chaque fois, miraculeusement, remis les choses à leur place et la mission continue. Et peut-être que Paul se prépare de plus en plus à endurer des choses difficiles. Voilà. Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. Il y a à la fois l'interrogation, combien de temps on va moisir ici, est-ce qu'on va mourir ici, et puis en même temps cette grande espérance que la mission n'est pas accomplie et que ça doit continuer.
Est-ce que Paul avait aussi entendu parler de la délivrance de Pierre dans la prison? Probablement.
Je pense que oui.
C'est sûrement pas quelque chose qui est passé inaperçu, même alors que Paul ne le connaissait pas à ce moment-là, je pense, si je ne me trompe pas.
Oui,
mais il a dû apprendre à connaître.
D'autant plus que Paul l'a revu il n'y a pas très longtemps, juste avant d'entreprendre ce voyage. Il était à Jérusalem, puis à Antioche. Donc oui, sans doute que les choses sont très claires dans sa tête aussi. Que même à Jérusalem, les apôtres sont protégés. Et pas par des miliciens, mais par Dieu et ses anges. Ok, donc je pense qu'on peut essayer d'être un peu comme ça, avec ces deux visions en même temps. Et puis, que se passe-t-il? Tremblement de terre. Et le texte précise « violent ». Enfin, en grec, c'est un peu moins vrai, mais c'est clair que c'est un tremblement de terre quand même assez important. Vous avez demandé de faire un peu le relevé des... Qu'est-ce qui vous dit que c'est important, finalement? Si on peut avoir... On a eu des tremblements de terre en Belgique, bon, ça a fait un peu de bruit, ça a bougé un peu, mais...
Bon, on a quand même eu peur.
Oui.
On était juste debout.
Ça secoue les fondations.
Oui.
Donc ça vient de...
Les fondations sont ébranlées, c'est-à-dire qu'elles sont disloquées en grec. C'est pas juste ça a bougé, c'est plus que bougé.
Oui, puisque...
Et quoi d'autre?
Les portes se sont déverrouillées. Je peux supposer qu'avec le tremblement, les verrous, ops,
voilà,
ça peut encore se comprendre par le simple tremblement de terre. Mais.
Il y a les chaînes aussi qui se sont détachées.
Ce sont les chaînes, c'est ça le plus gros.
Donc en fait, toutes les chaînes qui étaient reliées au mur à cause de la dislocation, et non pas l'effondrement, heureusement, ont rendu tout le monde libre, ou libérable, si vous voulez. Apparemment, de manière assez générale. Donc le bâtiment devait être quand même bien, bien abîmé quand même.
Mais est-ce que les sept ont été ouverts?
Alors,
ou
voilà.
C'était simplement les chaînes au mur.
Exactement. Moi, je pense que les cèpes étaient reliés au mur. Donc, ça laissait une plus grande liberté, si tu veux. On pouvait peut-être se remettre debout. Mais s'échapper, je pense, ça aurait été quand même un peu compliqué. Alors, tout le monde n'était pas avec les fers aux pieds.
Oui.
Donc, ceux qui étaient juste menottés au mur, bah, ils pouvaient se barrer, effectivement. Et d'ailleurs, on voit bien que le geôlier craint que ce soit le cas, que tout le monde en ait profité. Ok, donc tremblement de terre. Alors, il faut savoir que dans cette région du monde, c'est-à-dire la région des détroits du Bosphore, des Dardanelles, et la Macédoine et une partie de la Grèce, et de l'Asie mineure d'ailleurs, la Turquie actuelle, les séismes sont monnaie courante. Et à cette époque, sur une période de quelques centaines d'années, il y en a eu 117. Donc c'est pour vous dire que si on était habitué dans le coin à ce qui est des séismes tous les 20 ans, quelque chose comme ça. Et parce que la raison est simple, c'est la rencontre des plaques asiatiques et européennes qui font qu'il y a plein de tremblements de terre à ce niveau-là. Et celui qui nous occupe là, Philippe, il est clair que le grec laisse sous-entendre qu'il a été soudain, donc il n'y a pas eu de secousse annonciatrice. C'est une très grosse secousse d'un seul coup. Et le texte en grec précise grand, puissant, si vous voulez, ou violent, selon les traductions, au point donc d'ébranler les fondements, etc. Et quand j'ai été regarder quand même par curiosité les dégâts sur l'échelle de Richter, à quoi correspond le séisme, la magnitude de ce séisme devait être entre 6 et 7 pour que ça disloque des murs, que ça dégonde les portes, ou en tout cas leur permette d'être arrachés des murs, c'est déjà un très gros tremblement de terre. Et on peut alors comprendre la raison pour laquelle aucun prisonnier ne s'est échappé. Parce que quand tu subis ça, tu es quand même dans la sidération, l'effrayement. Je pense que personne qui vit un vrai gros tremblement de terre... À part peut-être s'il a le temps de s'échapper, de sortir, mais eux sont prisonniers, donc manifestement tout le monde n'aurait peut-être pas pu s'échapper. Et puis le geôlier, lui, il est là, il n'est pas loin, il est dans le couloir central de la prison au moment où ça arrive, et lui est réveillé. Donc manifestement, lui, il dormait. Il n'avait pas une oreille attentive au chant de nos deux juifs là. Lui, il pionce profondément, il est réveillé en sursaut, il s'aperçoit que tout est ouvert. Et qu'est-ce qu'il fait?
Il veut se suicider à la Kyrie.
Il veut, c'est ça, exactement. Il veut se donner la mort parce qu'il pense que la plupart s'en ont profité pour sortir. Que c'en est fini de son métier. Et en général, comme vous le savez, on en a déjà parlé quelques fois, on était puni très sévèrement pour ne pas avoir pu retenir des prisonniers. Des prisonniers qui s'évadent, tu le payais de ta propre vie en général. Ouais. En plus, ici, en l'occurrence, c'est un Romain, donc nécessairement, il aurait été zigouillé pour ne pas avoir fait son job comme il faut, même si c'était un tremblement de terre, le pauvre. Voilà. Donc, dans le contre-jour, alors imaginez, il y a quand même 2-3 torches dans ce couloir central, comme une sorte d'ombre chinoise. Saint Paul, qui a maintenant son cachot grand ouvert sur ce couloir, s'aperçoit que le gars veut se donner la mort. Il a dégainé son épée, il a peut-être déjà orienté vers ses tripes, et Saint Paul, alors qu'est-ce qu'il fait, Saint Paul?
Il l'arrête.
Il l'arrête en criant très fort, très très fort. Et qu'est-ce qu'il lui dit pour qu'il arrête?
Ils sont tous là.
Exactement, le message principal, c'est ça. Bon, il lui dit quand même, ne te tue pas, hein, c'est peut-être pas...
Oui, ça
commence par là, mais globalement, pourquoi ne pas se tuer? Ben parce qu'on n'est pas parti, tout le monde est là, personne n'est sorti. On peut aussi se demander quel est le lien entre l'attitude des prisonniers au moment où Silas et Paul chantaient, et qu'est-ce que cette attitude a dégagé en eux? Peut-être une certaine paix malgré tout, et que du coup, personne n'a eu l'idée ou l'envie de s'échapper, alors que la possibilité était là. Quoi. Et donc je reviens à notre geôlier, bah lui, pendant ce temps-là, il dormait, il n'a pas fait attention au chant, etc. Il pense que tout le monde en a profité pour se faire la belle, et finalement il est arrêté dans son geste suicidaire par un Paul qui... lui dit, ben, ne fais pas ça, parce qu'en fait, on est tous là, et apparemment, tous sains et saufs. Donc, on imagine bien que les plafonds ne se sont pas écroulés sur les prisonniers. Les bâtiments ont bougé, mais pas au point de faire effondrer tout le bazar. Et donc, on pourrait dire que cette réaction de Paul est salvatrice pour notre prisonnier. Il lui a sauvé la vie, finalement. Il ne l'a pas laissé aller jusqu'au bout de son geste.
Pour notre geôlier.
Oui, pour le géolier, pardon. Et alors après, que se passe-t-il?
Que oui, fait... Je veux vérifier, hein, ce
géolier. Ah oui, quand même.
Mettez-moi la lumière pour que je... Il y croit pas, peut-être.
Peut-être qu'il se dit non, il y en a quand même qui sont partis. Ouais. Donc il réclame, alors le grec est assez intéressant, parce que le grec réclame des lumières, pas une, pas la lumière, mais des lumières. Sous-entendu la multiplication des torches, si vous voulez, pour pouvoir aller dans chaque cellule. Et qui dit multiplication des lumières dit un certain personnel. Donc soit il y avait d'autres gardes aux portes même de la prison, soit il a fait appel à son propre personnel, puisque, on le verra par la suite, il a des domestiques, il a une maison là dans la prison. Voilà. Alors qu'il ait fait appel à sa famille, à du personnel domestique ou à des gardiens, dans tous les cas, il a donné un ordre qui est « il faut aller voir dans chaque cellule, sous-entendu, si la parole de Paul est juste. Mm-hmm. » Donc si on a bien le compte de prisonnier, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vérifie? Pas vraiment.
Non, pas vraiment.
Voilà. Donc lui, la seule chose qu'il fait après avoir réclamé les lumières, c'est pas de faire le tour de toutes les cellules. Lui, il va dans la cellule, la seule qui lui semblait importante. Et là, on peut se demander pourquoi, quand même.
Il est tout tremblant.
Oui. Tout ça, c'est intéressant. Ce sont des petits détails lucaniens qu'on doit examiner. Parce que, quelle est la raison de cette attitude? Moi, je pense que si j'avais été le geôlier en chef, j'aurais fait d'abord le tour moi-même de voir de mes propres yeux que tout le monde est bien dans sa cellule, j'aurais donné des ordres, je me serais pas précipité vers deux pingouins d'origine juive, parce que lui en plus il n'a même pas assisté au concert, donc il n'est pas impacté par ça. Mais on nous dit, alors en grec c'est clair, on nous dit qu'il est effrayé.
Mm-hmm. Il a eu vraiment quelque chose comme de l'estime ou peur de Paul, parce que c'est lui qui a dit non, ne te tue pas, arrête, nous sommes encore là.
Oui.
Donc,
tu as raison, il y a certainement un peu de reconnaissance quand même. Oui. Si ce que Paul a dit est vrai, c'est-à-dire sous-entendu, si mes autres gardiens viennent me dire tout le monde est là, tu vois, à qui je le dois. Et si ma vie est sauve, à qui je le dois? Je le dois à un type qui a osé me dire « ne te tue pas, reste en vie, on est tous là », etc. Donc je pense qu'il y a un petit peu de reconnaissance, mais le texte...
Mais en même temps, il demande voilà. « Que me faut-il faire pour que je sois sauvé
oui. ?»
Alors qu'il est déjà, quoi, il ne s'est pas tué.
Oui, oui. Donc il est déjà sauvé physiquement, on va dire ça comme ça.
Oui, c'est ça.
Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi arrive-t-il dans cet état de tremblement Alors oui, il y a le tremblement de terre qui peut jouer un rôle, hein, on est bien d'accord. Dans le sens qu'on est tous choqués par ce genre de truc. Hein.
Mais c'est pas la crainte de Dieu.
Alors voilà, moi je pense, et je pense que je ne suis pas le seul à le penser dans les commentateurs de ce genre de texte, c'est que quelque part, d'une manière un peu surnaturelle, le geôlier identifie le tremblement de terre avec ces deux hommes. Quelque chose. Alors, est-il dans une position de superstition au sens de se dire c'est les dieux hein, qui sont à la base de ça, c'est les dieux qui nous interpellent dans ce qui vient de se passer. N'oubliez pas que c'est quand même lui qui a fait enfermer dans ce cachot retiré, alors qu'il n'en avait pas reçu l'ordre, et qui a fait mettre des cèpes aux pieds de ces deux hommes, donc plutôt torture, si vous voulez, hein, quand même. Il n'est pas doux, le gars, hein, nécessairement. Et puis là, il arrive tout effrayé, tout tremblant, le contraire de ce qu'il est, en réalité. Ah oui, je le répète, on peut penser au séisme, on peut penser à la fébrilité aussi liée à l'évasion probable des gens, son projet de se suicider. Mais le texte nous laisse bien supposer que cet état est plutôt lié aux deux personnes présentes dans ce cachot.
Bah, il doit se demander, oh là là, je vais prendre sur ma tête, quoi. Il les a enfermés, bien liés, ouais. La même heure.
Paul devait avoir une attitude très particulière. Ouais. Et inhabituel pour un geôlier qui doit garder des prisonniers qui n'attendent qu'une chose, c'est foutre le camp, d'être libéré ou attendant la mort. Paul devait, apparemment, il donne l'impression de vivre une certaine paix dans tout ce qui se passe.
Confiance. Je pense que toute l'attitude de ces deux hommes, Paul et Silas, parle. Ouais. Quand bien même il n'a pas entendu les chants, il n'y a pas eu de protestation. Il les a enfermés dans le cachot le plus reculé. Il lui a foutu les cèpes aux pieds. Nos deux hommes sont pacifiques et humbles dans cette situation. Peut-être a-t-il assisté au début du concert, on ne sait pas combien de temps ils ont chanté. Hein. Voilà, on nous dit que c'est à minuit. Bon, ok, ils étaient encore en train de chanter à minuit, en tout cas, avant le tremblement de terre. Lui a peut-être assisté au tout début, puis s'est endormi. Je pense que c'est ça. Quelque chose transpire de ces deux hommes et il associe donc sans doute le tremblement de terre avec le dieu de ces deux hommes. Sont-ce les dieux ou le dieu? Bon, il sait qu'ils sont juifs, hein, il n'est pas fou. Bon, et tout le monde sait dans l'Empire romain que les juifs ont un seul dieu, point. Et que ce n'est pas spécialement les dieux de la mythologie grecque ou romaine. Et moi, ce qui me fait dire qu'il y a quelque chose de spécial, c'est qu'au fond, son attitude, si vous allez jusqu'au bout du texte, c'est de se jeter aux pieds de ces deux hommes. Ce qui n'est pas l'attitude d'un geôlier. Il ne faut pas rigoler, quoi. Hein. Donc, or, se jeter aux pieds, est-ce que vous avez été un petit peu voir si on a des répercussions dans la Bible, est-ce qu'il y a des images comme ça qui nous parleraient?
Souvent, les gens se mettaient aux pieds de Jésus. Ils s'agenouillaient devant Jésus.
Alors, on peut trouver déjà des textes dans l'Ancien Testament. Hein. J'en ai souligné qu'un, c'est l'histoire de la Tsunamite, par exemple, qui se jette dans Deux Rois, hein, qui se jette aux pieds du prophète parce qu'il a guéri, voilà, réanimé son fils, etc. Et puis, dans les évangiles, on en trouve un paquet. Hein, y a le lépreux dans Marc 1, qui se jette aux pieds de Jésus, la femme qui perd du sang, dans deux évangiles. Il y a Pierre, je ne sais pas si vous vous souvenez, Pierre, au moment de la pêche miraculeuse, fait la même chose avec Jésus. On a Jaïrus aussi, hein, ce chef de synagogue qui se jette aux pieds de Jésus. Donc, l'idée, ou la syrophénicienne dans Marc, on a aussi Marie, la sœur de Marthe, qui fait ça dans Jean. Voilà. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire quoi? Derrière cette attitude, il y a une sorte de vénération. Pas d'adoration, hein. Plutôt de la vénération, c'est-à-dire du respect teinté. Alors, si on va voir dans le dictionnaire, la vénération, c'est une attitude de respect teintée d'admiration, voire même d'affection. Alors là, ça me surprend encore plus, quoi. Tu vois, tu te dis, se jeter aux pieds de ces deux juifs, lui qui est le chef de la prison, Qu'a-t-il compris? Et apparemment, il a compris que ces deux hommes qui lui ont sauvé la vie, je le répète quand même, hein, c'est important, ont un message différent de tout ce qu'il a déjà vu et entendu. Ils ont une attitude qui est hors norme par rapport à leur réalité de prisonnier. Je pense que ça ne lui a pas échappé. Et que le fait que tout le monde est sauf dans la prison et que personne ne s'est échappé, ça doit renforcer cette idée que ça a un lien avec ces deux hommes-là. Est-ce que la prière chantée de Paul et Silas a eu un impact sur la manière dont les autres prisonniers auraient pu réagir? Apparemment, oui. Donc je pense qu'il fait le lien avec tout ça, d'une sorte d'intuition, si vous voulez, que quelque part, ces hommes ont quelque chose de particulier. Et comme tu le soulignais, Brigitte, la question qui va suivre montre qu'il y a quand même un questionnement. Ouais. Tu ne demandes pas que dois-je faire pour être sauvé si tu n'as pas compris qu'il y avait déjà quelque chose de particulier, de spirituel chez ces deux hommes. Voilà. Donc je pense qu'il faut, il faut pas qu'on perde ça de vue pour bien comprendre le texte. Quoi.
Je pense que beaucoup de chrétiens ont eu l'occasion d'entendre une fois dans leur vie, au moins une fois, si pas plusieurs, quand on aime le Seigneur, que le Seigneur a touché notre vie, même avant d'avoir parlé de ce qu'on a vécu, il y a des gens qui se sont entendus dire « tu n'es pas comme les autres ». Et probablement que le geôlier a dû être comme ça aussi, il a dû se dire par révélation, comme tu viens de le dire, une intuition, ils ne sont pas comme les autres, ces deux-là. Et ça interpelle, et c'est à ce moment-là qu'on peut rendre aussi un témoignage. Ça devait être une situation très particulière. On voit souvent dans les iconographies, des auras autour de la tête de quelqu'un. Il ne devait pas y en avoir, sans doute. Mais le Seigneur permet que de Paul et de Silas se dégage quelque chose que ça interpelle et ça pose des questions.
Alors, est-ce que vous avez regardé de près ce verset 30, qui est pourtant très simple, hein? Où se passe l'action?
En dehors.
Ce n'est pas dans les cellules.
Ouais.
Ce n'est plus dans la prison, mais vraisemblablement dans la cour centrale de la prison, là où les gardiens se réchauffent près d'un brasero, là quand c'est l'hiver, là où les gens se lavent éventuellement, enfin, etc. Ça dépendait des prisons. Donc, le geôlier, et c'est là qu'on voit l'attitude de changement déjà chez le geôlier. Au lieu de sécuriser maintenant la prison, de faire en sorte de mettre des gardes, de faire en sorte que ni ces deux hommes qui ont été apparemment pour lui enfermés par la justice, de quel droit se permet-il de les faire sortir de leur cellule, hein, alors qu'on lui a dit « garde-les bien, surveille-les bien », lui il les met dans la cour et puis il commence une discussion. Et la première question qu'il leur pose, justement, c'est celle-là. Hein, messieurs, ben, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Alors là, on comprend bien qu'il ne parle pas du salut physique. Il s'agit d'autre chose. Dans son idée, même si on lui a sauvé la vie, ce n'est pas suffisant. Je veux connaître, peut-être, votre liberté, votre manière d'être. J'ai envie d'être comme vous. Je pense qu'il y a tout ça là derrière. Donc, il les conduit à l'extérieur, dans la cour, il les questionne à propos du salut, comme s'il savait que ces Juifs étaient porteurs d'un message. Et peut-être le sait-il, d'ailleurs. Peut-être que les bruits ont pu lui parvenir sur les fameuses déclarations intempestives de la petite servante, hein, qui dit « ouais, c'est eux qui annoncent le salut », etc. Bon, imagine, c'est pas secret, ça s'est su à Philippe, hein, quelque part. Peut-être aussi à cause des chants religieux dont on a parlé. Peut-être le tremblement de terre, un mélange de tout ça. En tout cas, il est clair que cet homme-là sait que les deux Juifs en question témoignent de quelque chose de plus grand que ce qu'il sait lui ou que ce qu'il croit lui. Peut-être croit-il en X Dieu. Hein. C'est un païen, malgré tout.
Ici, il est marqué « autre traduction pour sortir indemne de cette situation ».
mais c'est pas la même chose pour moi que quand j'ai fait pour être sauvé.
Alors que le terme en grec, hein, tu te souviens, Brigitte, c'est bien le verbe sauver dans le sens traditionnel du terme, c'est-à-dire guéri, sauvé au sens spirituel du terme. Donc voilà, je pense que ça recouvre totalement l'idée de salut au sens où nous l'entendons dans le Nouveau Testament.
C'est pas une bonne traduction.
Bah, c'est une traduction délicate parce que je pense qu'on s'éloigne de la réalité spirituelle. Or, on sait, enfin, il suffit de lire le texte pour se rendre compte que le premier salut, ça a été le salut physique, mais lui réclame autre chose. Il dit, ok, vous m'avez sauvé la vie, mais je veux plus que cela.
Ouais.
Et je m'attends à plus que cela.
Ouais.
Et que faut-il faire pour être comme vous? Parce que c'est un peu ça, si tu veux. Lui, il croit qu'il faut faire des choses pour être dans l'attitude qu'ont Silas et Paul. Calme, zen, hein, chantant, alors qu'on a été roué de coups et qu'on est enfermé et mis au fer, etc. Bah, ça doit lui paraître quand même assez incroyable.
J'ai le mot Seigneur, parce qu'il s'adresse à Paul et Silas en disant Seigneur. Je ne sais pas en grec.
Tout à fait, en grec, c'est ça, oui.
C'est ça.
En fait, c'est la formule polie. Hein, pour voilà. Quand tu parles à une autorité, voilà, en plus c'est le chef de la prison. Ouais. Et lui s'adresse à eux aussi de manière très respectueuse. Il aurait pu leur dire tout simplement que dois-je faire, hein, et pas les appeler mes seigneurs.
Parce que le prisonnier, on devait les traiter comme des bons
avis. Ouais, surtout ça, là, en plus on lui a dit, c'est des gars dangereux, il faut les, hein, faut les mater, il faut les enfermer, etc. Peut-être aussi sait-il, parce que c'est courant dans l'Empire, il y a des Juifs un peu partout dans l'Empire, peut-être qu'il a appris, qu'il sait que les Juifs adorent un Dieu unique, et que peut-être ce Dieu-là, qui les a épargnés, et qui a épargné tous les prisonniers et le geôlier, peut-être que ce Dieu-là, on ferait peut-être bien de le connaître, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui se joue, et qui fait qu'il pose la bonne question, un petit peu de travers quand même, hein, puisqu'il pose la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire quoi? Je dois réaliser quoi pour obtenir la zénitude dans laquelle vous êtes? Comme tout bon humain, finalement, ben, le geôlier croit qu'il faut faire des choses. Ça nous fait quand même penser à plein de choses très historiques pour la vie de l'Église. Hein. On croit toujours qu'il y a des choses à faire. On l'a cru très fort à une époque dans le catholicisme. On le croit encore aujourd'hui, même dans des milieux protestants. Quand bien même on chante le salut par grâce, etc., quelque part, on se dit, mais il faut quand même que je mérite un peu mon salut, quelque part. Il faut que je fasse quand même quelque chose de positif, en oubliant que c'est pas du tout ça qui est attendu. Et donc la réponse fuse très rapidement, hein. Quand ils répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison », d'abord ils dépassent de loin la demande du geôlier. Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour avoir la vie que vous avez? Eux, ils répondent « Toi et tous les autres, vous pouvez être concernés. » Et au fond, cette phrase, on peut la dire autrement. On peut dire « Il n'y a rien à faire, mes amis, pour obtenir le salut. » Il n'y a absolument rien à faire. Le salut est totalement gratuit. C'est au fond ce qu'ils disent dans cette phrase. C'est quelque chose qui se reçoit. C'est un don. Il suffit, pour essayer d'étayer un peu ma pensée, il suffit de croire au Seigneur. Et alors c'est vrai que beaucoup de commentateurs ou de prédicateurs s'arrêtent là, comme si le texte n'avait pas une suite. Parce que quand même, si on veut être logique, on doit se demander comment le gars peut-il croire à un Seigneur qu'il ne connaît pas, dont il ne sait rien. Parce que croire au Dieu d'Israël encore passe, parce qu'il sait qu'il y a un Dieu unique, mais croire à un Seigneur dont il n'a jamais entendu parler, ça, c'est quand même fortiche, quoi. Donc, comment ce païen aurait-il pu comprendre la réponse de Paul et Silas, lui qui ne possède pas les clés de compréhension et qui ne connaît pas l'histoire de Jésus? Et c'est là que je dis qu'on pêche très souvent dans les commentaires, c'est qu'on oublie le verset 32, qui résume bien quelle a été l'attitude de Paul et Silas. Ils ont poursuivi la discussion. Ça ne sait pas. Donc, croire au Seigneur Jésus n'est pas une formule magique,
mais oui, mais moi,
comme c'est le cas dans certaines religions.
Ce texte, moi, j'ai toujours compris qu'il avait été dans la maison de geôlier.
Après.
Après.
Là, on n'est que dans la cour.
On est encore dans
jusque-là.
Il prêche. Il prêche.
C'est qui ça, c'est...
Avec tout ce temps de maison.
Oui, oui, mais ils sont dans la cour. Et la preuve, tu la trouves un petit peu plus loin. Parce que tout ce qui est décrit, verset 22.
Mais sa famille n'est pas dans la prison, quand même.
Si, si, sa maison est là, dans la prison, à l'étage, apparemment. On va y arriver, hein, Brigitte, je te promets que c'est dans le texte, je n'invente pas.
C'est vrai que c'est un peu ambigu.
Donc, pour l'instant, les versets, si tu veux, les versets 32 et 33 se déroulent dans la cour, à l'extérieur, si tu veux. Et puis, après, ils vont se diriger vers la maison. Et donc, mais à ce moment-là, quand ils vont dans la maison, c'est plus pour prêcher. On passe à autre chose.
Oui.
Donc, alors je reviens au verset 32, 2 minutes. Paul et Silas ne se contentent pas donc d'une espèce de formule magique. Pour qu'ils puissent comprendre et se convertir, ben, il fallait absolument lui dire qui était le Seigneur. Donc, oui. La prédication porte au moins sur l'histoire de Jésus, c'est-à-dire les évangiles, si vous voulez. Mmh. Au moins pour expliquer en quoi le salut est grandiose. Comment comprendre la notion de salut au sens spirituel du terme si tu ne sais rien de l'histoire de Jésus, du pourquoi il est venu, c'est-à-dire l'incarnation et toutes ces choses-là, quoi. Prédication centrée sur Jésus, qui a sans doute duré un moment, et auquel assistent, comme vous le voyez dans le verset, tous ceux qui vivaient avec lui. Et peut-être même les gardiens. Ceux qui sont en tout cas dans la cour.
Famille est venue voir ce qui s'est passé au tremblement de terre aussi.
De toute façon, je pense que personne n'est resté vraiment.
Non.
Alors, le texte ne nous dit pas combien de temps ça a pu durer, mais on sait en général que quand Paul parlait, prenait le temps. On n'était pas là dans une espèce de message réduit. Voilà. On prend le temps d'expliquer, en tout bon juif, en tout cas. Et vous savez aussi que l'enseignement, notamment l'enseignement fait par des juifs, est quasi toujours interactif. On pose des questions à son public, on attend la réponse, on corrige la réponse du public. Donc ça a pu durer un moment, il prend son temps. Et je pense que c'est à ce prix que la foi peut naître, quand on a vraiment les clés de compréhension du message de l'évangile, alors ton cœur peut être transformé, touché, impacté, etc. Et vous savez que Paul a déclaré aux Romains, dans un texte bien connu, que la foi vient de ce qu'on entend. Donc comment cet homme aurait pu accéder à la foi s'il n'avait pas écouté un minimum ce qu'ils avaient à dire sur ce fameux Jésus dont ils ont parlé dans leur première phrase. Et puis, à l'heure même, dit le texte, verset 33, donc en pleine nuit toujours, le geôlier les amena pour laver leurs plaies. Donc, on les emmène quelque part dans la cour où il y a de l'eau. Et apparemment, peut-être même des bassins. Pas juste un robinet, une fontaine, tu vois ce que je veux dire. Pas un filet d'eau. Il y avait suffisamment d'eau que pour atterrir à une situation de baptême. Et ben pas d'une seule personne, mais de plusieurs personnes, d'accord ? Alors, le texte grec laisse entendre qu'il y a un lien de cause à effet direct entre la prédication de la bonne nouvelle qui vient d'avoir lieu et ce qui se déroule maintenant. C'est-à-dire, on passe de la prédication au baptême comme quelque chose de tout à fait naturel. Et si on observe bien l'attitude du geôlier, qu'est-ce qu'il fait immédiatement après la prédication? Est-ce qu'il demande le baptême? Quelle est sa première action?
Il lave leurs plaies.
Quand il a compris le message de l'évangile,
il leur lave les blessures.
Il prend soin de ces deux hommes qu'il a lui-même torturés. Oui. Je ne parle pas des coups, je parle de la prison, des conditions, les cèpes, etc. Quoi. Il ne les a pas soignés à l'arrivée, on ne les a pas... Ah, tiens, allez vous laver les gars, vous êtes plein de sang. Non, pas, rien de tout ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il a compris le message de l'évangile.
Ouais.
Cette petite phrase, de nouveau les petits détails lucaniens, c'est dans l'attitude qu'il adopte, lui qui est le chef de la prison, il applique les exigences qu'implique la foi en Jésus. Mmh. C'est-à-dire, non seulement aimer Dieu, comprendre qui est Dieu, avoir foi, mais prendre soin, donc aimer son prochain. Les deux commandements, les deux principaux commandements que Jésus a développés. Et donc, il prend le temps, c'est bien. Le texte est clair en grec, c'est lui qui les lave. C'est pas un serviteur. Lui, parce qu'il a une attitude de compréhension, une attitude de cœur, endosse le ministère de serviteur envers eux. Vous voyez ce changement radical entre l'arrivée à la prison, les conditions d'emprisonnement et ce qui se passe dans le cœur du geôlier, c'est extraordinaire. C'est un changement, mais radical d'attitude, finalement. Donc, on voit qu'ils lavent leurs plaies, ce qui d'ailleurs, le mot plaie utilisé en grec, c'est bien des plaies ouvertes. Hein. Ils sont sanguinolents, les gars. Il y a du sérum qui coule, c'est prêt à l'infection, si vous voulez. Donc, il prend le soin, et c'est là qu'on voit que l'histoire des coups est authentique, véridique. Hein, voilà. Lui qui les a traités sans ménagement. Et cette action compatissante, elle résonne comme un véritable acte de repentir aussi. Ouais. Autant je vous ai fait du tort, autant je vous veux du bien, en signe de profond changement, une preuve de son appartenance au Christ, quelque part. Donc, voilà le lien de cause à effet avec le baptême. Ce n'est pas prédication au baptême, c'est prédication, compréhension et action, voyez, mise en pratique, si vous voulez, de l'Évangile, pour aboutir au baptême. Ça donnait à Paul et à Silas la certitude que cet homme avait compris. Et puis, il les baptise, et puis, comme ils avaient parlé d'un salut plus large que l'individuel, bah, ils baptisent tout le monde, par la même occasion. Et je ne résiste pas à l'idée de vous citer Chrysostome. Chrysostome, c'est un père de l'Église qui a beaucoup écrit, un très grand prédicateur. Alors, pour le jeu de mots, ce n'est pas son nom, Chrysostome, c'est un surnom. Et le surnom, c'est Bouche d'or. C'est-à-dire, ce gars était tellement éloquent et tellement profond dans ses prédications qu'on l'a surnommé comme cela. Pourtant, il n'était pas spécialement aimé de tous les politiques parce qu'il n'avait pas sa langue en poche. D'accord ? Donc, il a quand même été évêque à Constantinople, le gars. Et puis après, il a été déclassé, puis on l'a laissé mourir dans un espèce d'exil forcé. Le pauvre, comme d'ailleurs beaucoup de croyants de l'époque, hein, ce n'était pas de la rigolade, de l'engagement à l'époque. Et donc ce fameux Chrysostome a écrit ceci, en parlant de ses geôliers, « Il lava leurs plaies et fut lui-même lavé de ses péchés. » Vous voyez l'image ? L'image, c'est autant il prend soin d'eux sur un plan physique, autant les deux compères vont prendre soin de lui sur le plan spirituel en acceptant de le laver de ses péchés. Je trouve la formule très belle. Donc, au lavement des blessures physiques correspond les eaux du baptême, si vous voulez. Ça aussi, ça marque la compréhension, l'entendement du geôlier. Il a bien compris le message de l'Évangile. Et avant le lever du soleil, tout le monde est passé par les eaux du baptême. Et cela marque vraiment mais un changement radical de la vie de ce geôlier et de toute sa famille, y compris peut-être ses quelques esclaves domestiques. En une nuit, tout a changé pour lui. Alors qu'au début, en fin de journée, en début de soirée, il n'était nulle part. Il n'était pas du tout concerné par l'Évangile. On peut se demander d'ailleurs alors si l'injustice qui a frappé Paul et Silas est si injuste. Qu'est-ce qu'on sait de ce que Dieu veut ? La prison a été l'occasion de X conversions, de X baptêmes, on ne connaît pas le nombre. Extraordinaire quand même. Moi, je trouve ça incroyable. Quoi. Quelque part, ça me fait penser à certains récits de gens qui sont persécutés pour leur foi, et qui arrivent à avoir des conversions, et notamment dans des pays comme l'Iran et tous ces pays musulmans où faire du prosélytisme est complètement dangereux pour sa propre vie, et pourtant il y a des gens qui continuent de le faire, qui continuent de prêcher au cœur même de la prison la liberté en Christ. C'est pour moi assez extraordinaire, quoi. Et alors, pour venir à ce que Brigitte disait tout à l'heure, ben voilà, verset 34, il va encore plus loin. Non seulement Il a pris soin d'eux, il les a soignés, il s'est fait baptiser, mais il les emmène, et c'est là qu'on voit la différence de lieu. Le grec est très clair, il y a une montée. Il y a sans doute des escaliers, ou en tout cas une rampe d'accès, qui fait qu'on monte un truc un peu plus élevé que la cour ou la prison, si vous voulez. Une sorte d'habitation de fonction au cœur de la prison, pour le chef de la prison. Et là, qu'est-ce qu'il fait, cet homme ?
Il est dans l'allégresse.
Ouais. Il leur donne à manger.
Exactement.
Il continue les soins.
Il partage un repas, il va jusqu'au bout de ce qu'il a compris, en tout cas. Et comme dit le grec, c'est de l'allégresse, hein. C'est plus que la joie, c'est quelque chose d'assez incroyable. Et la raison en est simple. C'est pas l'allégresse, voilà, on fait la fête, c'est un mariage, etc. C'est parce qu'il croit en Dieu et que tout a changé. C'est ça que le texte nous dit, hein. Donc, faisant monter dans la maison, on passe donc de l'extérieur, de la cour intérieure, à un intérieur qui est cette maison. Cette nuit se termine par un excellent repas, qui n'est pas sans rappeler quand même à une oreille chrétienne la communion fraternelle, la scène, la gape communautaire, le banquet des noces de l'agneau, etc. Hein? Tout ce qui est repas en général dans le Nouveau Testament a trait à la fraternité, à la relation, aux émotions. Donc il faut en tenir compte. C'est presque un repas de reconnaissance, un repas d'action de grâce. Pas seulement pour Paul et Silas, mais pour ce Dieu que maintenant je connais. Il y a quelque chose d'extraordinaire. J'ai été très frappé par ce texte quand même. Tout cela évoque la réjouissance du salut, la joie de la foi, la fraternité des êtres humains qui étaient quelques heures auparavant séparés. Moi païen, eux juifs. Et moi ennemi.
Et tout ça dans la désobéissance.
Exactement.
De son rôle de chef
de prison. Aux ordres qu'il a reçus et à son rôle dans sa fonction.
Il devait peut-être réfléchir, oh, qu'est-ce qu'on va penser de moi, ce que je suis en train de faire.
Mm-hmm. Et alors, littéralement, quand on analyse un peu le grec, il fut, c'est le texte qui le dit, je ne sais pas dans vos versions, mais oui. Le grec dit « il fut dans l'allégresse ». Or, ce verbe se traduit « se réjouir »,« jubiler »,« être rempli d'allégresse hein. ». Voilà, c'est toutes les sens que l'on peut accorder à ce verbe. Il s'agit donc d'une joie qu'on pourrait presque traduire d'incommensurable. Une joie qu'il n'a jamais expérimentée avant. Mais c'est pas que lui. Le texte nous laisse bien comprendre que c'est tout le monde.
Tout le monde,
oui, se réjouit en famille. Hein. C'est avec toute sa famille. Tous ceux qui sont passés par les eaux du baptême, etc. La joie du nouveau converti, la joie d'être sauvé. La joie de croire en Dieu, etc. Et désormais, donc, avec cet acte-là, ce qui vient de se passer, s'ajoute à l'église juive messianique de Philippe des hommes, des femmes, des enfants d'origine païenne. Alors, à noter peut-être quand même qu'avec la conversion de Lydie, probablement il y avait déjà quelques hommes, ceux de sa maison, ceux de son personnel. Donc, peut-être des hommes croyants, peut-être des hommes qui, comme Lydie, croyaient en Dieu, peut-être pas. Bon, peut-être y avait-il déjà là un ou deux païens masculins dans cette église, mais maintenant on est certain qu'il y a plus que cela. Avec la conversion de ce geôlier, il y a plusieurs hommes, des libres et des esclaves, qui appartenaient à cet homme. Désormais, donc, cette église qui était apparemment messianique au départ devient mixte, comme on l'a vu en Turquie, hein, dans l'Asie mineure, la fondation de plusieurs églises composées de juifs et de païens. Voilà. D'ailleurs, on retrouvera cette information dans le dernier verset, qu'on n'a pas encore étudié, mais où manifestement, Paul va réconforter, le texte dit en grec, les frères. C'est-à-dire, on remet sous le vocable masculin tout le monde. C'est donc bien qu'il y a des frères, des hommes. On n'est plus seulement devant une église de femmes, qui au départ était celle-là. au tout début de la conversion de Lydie. Et puis voilà, un certain nombre de personnes s'y sont ajoutées. Alors on ne sait pas sur combien de temps a duré le travail chez Lydie, avec Lydie, etc., peu importe. Et puis, quand le jour arrive, que se passe-t-il ?
Mais je trouve que c'est intéressant de, au verset 25, dans la top, avant le vers, il y a la note W, et donc ce qu'on vient de lire maintenant, de 25 à 34,
oui.
L'épisode de la libération miraculeuse semble inséré après coup dans le récit de l'exorcisme de la servante à l'esprit divinatoire. Et puis alors les versets 35-40, on va dire maintenant, reprennent le fil de ce récit sans aucune allusion à la libération miraculeuse et donc au tremblement de terre. Donc, je trouve que c'est quand même important de réaliser ça.
Oui.
Mais ça a peut-être été rajouté par après, cette histoire
de
tremblement de terre. Mais
ce qu'il faut bien comprendre, c'est que des ajouts, on en a comme ça dans pas mal de sections de la Bible, qui sont soit des ajouts de l'école lucanienne, en l'occurrence ici, parce que c'est un fait, et c'est pas juste un truc inventé, tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas rajouté une petite histoire, mais on rajoute l'info qui manquait, que Luc n'a pas souligné, etc. Bon, moi, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, je serais curieux, j'ai pas été vérifié, mais je serais quand même curieux de voir dans les manuscrits les plus fiables, si c'est le cas, si on peut voir une trace, voilà.
Mais c'est vrai qu'on peut lire le texte sans
on pourrait se passer de toute façon, il y a enfermement et il y a libération. Après, tremblement de terre ou pas, conversion ou pas, etc. Donc, le jour survient. Et là, que se passe-t-il ?
Les magistrats veulent relâcher les gens.
Oui. Donc, les magistrats, ils envoient. Alors, c'est un peu du jargon un peu romain. Les stratèges, donc les magistrats, les juges, envoient les licteurs. Les licteurs, c'était justement ceux qui portaient les faisceaux de verge dont on a parlé la fois passée. Les espèces de carquois dans lesquels il y a ces tiges pour frapper. Et donc, quand les stratèges disaient à leurs licteurs « Bon, celui-là, il doit être battu », ben, ils ouvraient leur carquois, ils distribuaient les verges à qui devait en avoir, et puis on fouettait, voilà, en faisant passer les prisonniers entre deux rangs de militaires, ils étaient punis. Donc c'est ces fameux licteurs qui sont, la veille, qui ont fait rouer de coups les deux compères, qui sont envoyés à la prison pour dire quoi ?
Oui.
Donc tout d'un coup, on a enfermé illégalement des gens, et puis tout d'un coup, on les relâche, mais il n'y a même pas un motif, quoi. On ne sait pas pourquoi. Hein ? Bon, maintenant que le jour s'est levé, apparemment les stratèges ont des petits problèmes. On peut se poser la question, pourquoi le font-ils ? Pourquoi les relâcher ? Est-ce que cette libération a quelque chose à voir avec le séisme ? Est-ce que eux aussi font un lien entre le tremblement de terre et puis ces deux hommes qu'ils ont quand même malmenés, judiciairement parlant et physiquement parlant ? Font-ils aussi un lien avec cela, peut-être ? Auquel cas, ce serait un peu de la superstition. Mais on peut supposer d'autres raisons à cette libération.
Ils ne voient pas tellement de quoi les accuser.
Déjà, s'ils devaient reprendre le procès, ils n'ont rien en main pour le faire. Donc sans doute qu'ils se sentent un peu mal à l'aise, et peut-être mal à l'aise aussi par rapport à leur attitude la veille, qui a été de céder à la pression d'une foule en délire, en colère. Ce qui n'est quand même pas le rôle de la loi. Quand tu rends la justice, ce n'est pas sous pression de gens qui t'obligent à faire quelque chose qui n'est pas positif. On peut aussi se dire que peut-être ils ont eu un vent de vérité sur l'affaire de la veille, c'est-à-dire quelles étaient les vraies motivations des proprios. C'est-à-dire, finalement, ce dont on aurait dû les accuser, c'est la délivrance spirituelle d'une esclave. Mais ça, ce n'est pas dans la loi. Donc, ce n'est pas judiciable. Et puis, bon, la foule, entre-temps, ben, elle s'est dispersée, elle est calmée, si vous voulez. Ils ne sont plus sous la pression de la foule au moment où le soleil se lève. Donc, quand même, ils doivent quand même un peu avoir mauvaise conscience d'avoir été des lâches, céder à la pression de la foule, d'avoir fait battre des gens sans motif et sans procès et sans jugement rendu. Rien de rien, moins que rien. Bon, je sais pas, j'aurais été juge de la ville de Philippe. Attention, colonie romaine. Hein, non, c'est-à-dire, c'est comme si Rome était là. Comment on peut avoir cette attitude-là? Puis, peut-être, certains commentateurs disent que peut-être Lydie s'en est un peu mêlée, commerçante influente, connue de tous, elle est peut-être intervenue en catimini auprès de ses autorités en disant, dites, c'est quoi votre histoire, là? Bref, quoi qu'il en soit, ils envoient ce message de libération au geôlier. D'accord ? Le geôlier, qu'est-ce qu'il fait, lui ?
Il le transmet à Paul.
Il va le communiquer. À lui, il doit prendre ça comme une excellente nouvelle. Lui qui vient d'être libéré lui-même, il doit se dire « super hein ! Voilà qu'on libère ces deux hommes qu'on m'a fait maltraiter. » Et il leur dit, ce n'était pas dans le message initial, « dans ces conditions, puisqu'on vous relâche, sortez donc et partez en paix. »
Ce qui signifie qu'il les a mis en prison.
Non, ils sont toujours dans la prison, en fait, hein, même s'ils sont chez lui. Hein.
Pourquoi ils sont toujours chez lui?
Alors, je ne sais pas. Le texte n'est pas précis là-dessus. Je ne pense pas qu'il les ait remis en cellule.
Non, quand même pas.
Mais quelque part, il leur signifie qu'ils sont libres. Vous pouvez partir. Partir de la prison définitivement, partir en paix, retourner à leurs occupations. Et alors, voilà que Paul déclare... fait toute une litanie, hein, des espèces de procès des magistrats. Hein. Ils nous ont fait battre en public, sans condamnation. Nous sommes citoyens romains. Ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, le texte grec dit, c'est secrètement.
Oui.
Hein, en catimini, alors, ta top dit clandestinement, mais en catimini, on veut nous jeter dehors, vous voyez. On nous a jetés en prison, maintenant on veut nous jeter dehors, comme si ça n'avait pas existé, ce qu'on nous a fait, ce qu'on nous a dit. Ben non, il n'en est pas question. Voilà, clair, qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Bon.
Moi j'ai dans ma traduction, mais Paul dit aux lecteurs, donc apparemment les lecteurs
oui,
sont
oui, c'est à eux qu'il s'adresse.
Le geôlier.
Oui.
Et
alors ?
Je suppose que c'est comme ça partout.
Alors, toi, tu es dans quel verset ?
Paul dit aux agents.
Au verset 37, début 37. Dit Paul dit aux agents.
Alors, je retourne au grec parce que c'est vrai que la top. Je
s'assure que le geôlier fait bien la communication. C'est
oui, c'est au licteur, effectivement. Parce qu'en grec, c'est à eux. Donc, ils ne s'adressent pas au geôlier, mais bien au porte-parole des stratèges. Donc ça c'est clair, donc ça c'est une bonne traduction. Donc, et du coup il fait le procès devant ses lecteurs, hein, qui sont quand même des agents de justice. Hein. Ouais. Il leur dit, écoutez, non, ce ne sera pas comme ça que ça va se passer. Ouais. Alors j'ai presque envie de sourire en disant, incroyable, voilà des prisonniers qui refusent de sortir de prison. C'est un peu le monde à l'envers quand même. Et le principal argument, c'est leur citoyenneté romaine.
Ouais,
c'est ça qui va déclencher les choses. Donc l'apôtre, si vous voulez, en appelle au droit romain. Vous nous avez traités injustement, d'autant plus que nous sommes citoyens romains tous les deux.
Ouais.
Et je ne sais pas si vous le savez, mais Paul, en tout cas pour Paul, je ne sais pas pour Silas, mais Paul est citoyen romain de naissance. C'est donc pas « j'ai acheté des droits pour être romain ». Beaucoup de gens qui ont servi l'Empire sont devenus citoyens romains en achetant, alors soit par l'armée, en ayant donné 20 ans de leur vie à l'armée, soit en payant, pour ceux qui avaient le pognon, les familles riches, payer la citoyenneté romaine. Lui, il a un avantage sur tous les autres, c'est qu'il est romain. Il n'a jamais eu d'autre nationalité que romaine. Quand même assez. En tout cas, on ne sait pas comment, Mais il faut savoir que Tars est un lieu qui est considéré comme romain aussi. Donc beaucoup de gens qui vivaient à Tars avaient la citoyenneté romaine, et donc ça se transmettait. Même un juif qui avait reçu cette citoyenneté, sans doute par son père ou son grand-père, la transmettait à l'enfant qui naissait. Donc lui, il peut en plus se prévaloir de ça, quoi.
En acte 22-28, il est dit « Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen.
Oui.
Mais moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. Et en un, pour naître citoyen romain, il fallait avoir un père qui l'était déjà lui-même. »
Exactement. Exactement. Donc, je reviens à ce verset 37, parce que je crois que j'ai oublié certaines choses. Donc, en faisant part de cette citoyenneté, il met le doigt sur la faute des magistrats, en fait, comme s'il disait « Écoutez, si vous aviez mené votre enquête conformément à la loi et à la procédure, vous n'auriez pas fait battre de verge deux citoyens romains, ce qui était une faute grave. » Donc, quelque part, que risquaient les stratèges ? D'abord d'être sévèrement punis, pas la mort nécessairement, mais sévèrement punis, mais en plus, alors il faut savoir que les stratèges, c'est comme des, comment on va dire, des super citoyens de Philippe, c'est-à-dire, ils représentent l'État. Et s'ils représentent l'État et que la ville commet une faute, la ville est privée de son droit de jus italicum, dont on a parlé la fois passée. C'est-à-dire, ils perdent le droit d'être une enclave de Rome là. Vous voyez ? Il y avait des conséquences graves. Oui. Donc, Paul, qui est tout, quand même un fin stratège, il faut bien le dire, met le doigt en plein dessus pour leur foutre une pétoche monumentale, une peur incroyable, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il poursuit en argumentant ? Il veut que leur libération soit officielle. Pas en secret.
Qu'ils
viennent s'excuser. Que ce soit public. Ouais. Et pour cela, les stratèges sont invités à se déplacer à la prison. Moi, je ne sors pas. Si vous ne venez pas à nous, nous, on ne sortira pas. Mais puisqu'on est citoyen romain, ça finira par se savoir. Hein. Paul propose une manière, j'allais dire équitable quand même, de reconnaître leur erreur, de réparer aussi l'honneur sali, parce que finalement, on les a traités comme des criminels alors qu'ils n'ont rien fait, salis par les coups, salis par l'emprisonnement, injustifié. Et pour lui, une libération en catimini ne les laverait pas de tout soupçon. Donc, il souhaite quelque chose d'officiel. Il faut que leur réputation soit indemne. Pour quel but ? Pas pour eux, mais pour la poursuite de l'Évangile à Philippe, pour le bon témoignage de la communauté qui est déjà née dans cette ville et pour la voie messianique en général, qu'on ne puisse pas dire « Ah, c'est ces deux-là qui ont été arrêtés. » Tu vois ? C'est ces deux-là qui ont été pendant un jour en prison pour avoir évangélisé, tu vois, les connexions qu'on peut faire. Lui, il veut que ce soit clean. Si on veut que l'Évangile poursuive sa trajectoire à Philippe, il faut qu'on reconnaisse que nous n'avions rien fait, que nous ne sommes coupables en rien. Pour l'honneur de Dieu, ça doit être comme ça.
Non, en t'entendant, tout à l'heure, on a parlé du geôlier qui a été sauvé et puis qui demande à être sauvé par la foi. Et puis maintenant, le geôlier a lavé Paul et Silas, mais Paul demande à être lavé
de tout soupçon aussi. Lavé de tout soupçon dans cette affaire. Tout à fait. Alors évidemment, les lecteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont bien obligés d'aller rapporter tout ça à nos fameux magistrats, à ceux qui ont pris la décision de les faire battre de verge et enfermer. Et le texte est très clair, ils ont la trouille. Ils ne sont pas à l'aise du tout avec cette histoire et ils reviennent à la prison, comme Paul l'avait prévu. Donc sa stratégie est extraordinaire. Donc ils viennent, ils font le déplacement. Alors, le texte ne dit pas clairement qu'il s'excuse, mais c'est ça que ça veut dire. Venir à la prison, oui, venir à la prison, c'est reconnaître quelque chose.
Déjà. Oui, déjà, se déplacer, ça
devrait être. Et puis, il les libère. Hein. Il les libère, c'est-à-dire, le texte en grec dit qu'il les accompagnèrent à l'extérieur, pour qu'ils pour être sûrs qu'ils sont bien
qu'ils sortent de prison,
sortis de prison et que voilà que tout va bien se passer. Oui, parce que le droit romain interdisait de flageller un romain, quoi. Donc ils font amende honorable pour leur comportement un peu abusif et déplacé. Et puis il les prie, donc sur le chemin de l'extérieur, si vous voulez, il les prie de bien vouloir quitter la ville. Bon, on va voir que c'est pas tout à fait ce qu'ils font, mais bon. Oui, ils vont partir, mais ils partent pas tout de suite. Donc,
ils ont l'air tout à fait exigés, mais en même temps, ils veulent pas perdre la face.
Allez, oui, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quand même pas mal de raisons à cela. Sans doute dans le but d'éviter un scandale. Ils n'ont pas envie qu'on leur dise, ah, vous voyez, hein, vous avez quand même cédé à la foule, là. Vous avez fait n'importe quoi. Donc, et peut-être parce qu'ils ont un peu peur que Paul et Silas en parlent à Philippe. Que ça se sache de manière plus officielle, si vous voulez. Donc, voilà. Après, on peut aussi imaginer que puisqu'ils n'ont pas su contenir la foule une première fois, ils n'ont pas envie d'une deuxième fois. C'est-à-dire d'un deuxième scandale où la sauvegarde de Paul et Silas serait en jeu. Et donc, afin d'éviter ce genre de problème, il vaut mieux qu'ils ne soient pas là. Voilà. Discrètement, essayez d'aller faire votre cirque ailleurs. En tout cas, ils n'étaient pas certains d'être capables de les protéger. Or, ils sont citoyens romains. Ne pas protéger des citoyens romains, ne pas réussir à les protéger, ça serait aussi scandaleux, quoi. Alors, il faut quand même noter une chose. On n'est pas du tout dans le cas de figure de ce qu'on a déjà vu dans les actes. Il ne s'agit pas d'une expulsion, il ne s'agit pas d'un bannissement. Ils ne sont pas interdits de séjour à Philippe. Donc, sous-entendu, ils peuvent y revenir un jour. C'est une sorte de décision d'un commun accord, en fait, si vous comprenez un peu dans les lignes. Eux proposent la libération totale, le lavement de tout soupçon, à la condition que vous partiez pendant un temps. Que ça ne fasse pas d'autres vagues, etc. Mais il n'y a donc pas un interdit. D'ailleurs, ils ne pourraient pas. Ils n'ont pas le droit d'interdire le retour à Philippe puisqu'ils sont romains. Ouais. Donc, de toute façon, c'est pas possible, quelque part. Et voilà, notre dernier verset, très intéressant en lui aussi. C'est que, Paul va quand même prendre son temps, Paul et Silas. C'est-à-dire, oui, on va partir, mais on a des choses à faire. Dès qu'ils sortent de prison, ils vont chez Lydie, ce qui nous montre d'ailleurs que c'est bien là que l'Église se réunit désormais, puisqu'ils n'y vont pas pour voir Lydie, mais pour voir toute la communauté, les frères au pluriel. Donc ils s'en vont là, et le texte nous explique pourquoi, dans le but d'exhorter, d'encourager, avant de partir, voilà. Donc on découvre bien que cette maison de Lydie est devenue, comme je le disais la fois passée, le centre opérationnel des activités missionnaires, le lieu de culte apparemment de cette communauté naissance, qui est devenue mixte, rappelons-le, il y a des hommes et des femmes, il y a des juifs et des païens, et Paul et Silas ne quittent donc pas immédiatement la ville parce qu'ils veulent prendre ce temps d'édifier, d'encourager, sans doute à demeurer ferme dans la foi, à continuer le travail, puisqu'ils vont partir, ne serait-ce que pour se faire oublier quelque temps, et peut-être même les confie-t-il à celui qui reste là, c'est-à-dire Luc, qui pour l'instant, rien ne nous est dit sur ce qu'il va faire, lui, pendant le temps où ils ne sont pas à Philippe. Et comme on le retrouve plus tard à Philippe, on estime, la plupart des commentateurs en tout cas, qu'il est bien resté.
Et je ne peux pas imaginer qu'ils n'ont pas introduit le geôlier et sa famille.
Oui, je pense qu'il y a tout ça.
C'est pas possible qu'il ne l'ait pas fait.
Oui.
Parce que, il sort de la prison, mais ils doivent raconter aussi que le geôlier s'est converti.
Ouais.
Et donc, ils doivent les introduire, les accueillir, les employer.
Peut-être même ont-ils quelqu'un avec eux de la prison qui les accompagne.
Mais je me dis, ils ont eu leur plaie et tout ça, ils ont besoin d'une bonne nuit avant de repartir.
Oui, je crois. Le texte ne dit pas du tout. Oui, exactement. Et le texte ne
laisse... Une ou plusieurs, quoi.
Le texte ne laisse aucun repère chronologique pour dire est-ce qu'ils sont partis juste après ça. Après avoir parlé 2 heures, ils se partent. Or, ils ne vont pas partir juste à côté. Hein. Ça, c'est un détail qu'on verra la prochaine fois. On nous dit qu'une fois que tout ça est accompli, ils repartirent, dit la tome, c'est pas tout à fait le verbe, c'est partir tout simplement. Mm-hmm. Et on va voir que là où ils se rendent, en fait, ils suivent la voie romaine. Donc, ils partent de Philippe, mais en continuant, non pas en revenant vers le port, mais en continuant sur la Via Ignatia dont on a parlé la fois passée, la grande voie romaine, pour aller à la prochaine ville, hein, voilà. Ils ne savent pas encore vers quoi ils vont, ni ce qu'ils vont y faire, mais c'est en tout cas ce qu'ils font. Et on étudiera ça une prochaine fois. Alors, y a-t-il quelques... Je ne sais pas quelle heure il est. Application.
C'est 10.
Là. Oh, y a... On a dépassé l'horaire.
Oui, heureusement qu'il n'était pas en forme.
Moi, je pense que ça peut arriver à tout le monde de ne pas dormir une nuit à cause des tracas qu'on a. Et moi, ma première réaction, je ne dirais pas que je suis fâchée sur Dieu, mais que je suis triste. Et comment est-ce qu'on va s'en sortir? Mais au fil du temps, on se rend compte quand même que, comme Paul et Silas ont fait, c'est se tourner vers lui et lui dire tout. Et de toute façon, il sait tout, mais se confier à Dieu et demander que lui, il agisse, parce qu'il est le seul à pouvoir agir dans beaucoup de cas. On n'a jamais été en prison, mais on a déjà connu des moments que c'était hard. Et ben, on se tourne vers lui. Mais moi, ma première réaction, c'est que je suis déçue, que je ne comprends pas. Et comment est-ce possible? Mais tout doucement, ça grandit. La confiance en Dieu grandit. Et c'est vrai que lui, il a toujours une réponse à tout. Même si ce n'est pas une réponse qu'on a tout de suite. Mais voilà. Et aussi accepter que la vie n'est pas toujours tout beau, tout rose.
Et que dans cette tempête, on a quelque chose à vivre et à être aussi, hein, par rapport aux autres, par rapport à nos proches.
Mais ça s'apprend justement par des trucs comme ça, par des difficultés.
Moi, ce que j'ai observé avec le texte, c'est vraiment Dieu propage son évangile au travers de nos vies, dans des circonstances parfois extrêmement difficiles. C'est-à-dire qu'il profite de nos épreuves, si vous voulez. Il utilise la maladie, la persécution, la mort pour la cause de l'évangile. Et donc, c'est extraordinaire, hein, comme je disais tout à l'heure, de voir que dans cette prison où il était totalement improbable que se passe une évangélisation, un culte des baptêmes, enfin, et une agape finale, bon, voilà, improbable. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Donc, Dieu se sert d'absolument tout quand il est à la manœuvre. Je tire mon chapeau. Quoi. Bon, on peut aussi parler du changement de personnalité radical. La conversion offre une nouvelle vie. La preuve en est dans ce texte, hein, c'est clair. Voilà, je suppose qu'il y aurait beaucoup d'autres applications, mais bon, il s'est tard, on ne va pas prolonger pour prolonger. Je vous remercie, j'espère que c'était assez clair, parce que j'étais quand même très fatigué en démarrant. Mais je suis toujours émerveillé par tous les petites choses que Luc sème dans son texte et qui me fait réfléchir quand même. Pas simplement pour faire Sherlock Holmes, hein, mais pour découvrir quelques vérités intéressantes. Alors, la prochaine fois...
17. jeudi prochain.
La prochaine fois, justement, je n'ai rien décidé. Parce que je n'ai pas eu le temps de me pencher sur la suite. Donc, voilà.
Tu vas nous envoyer. Par contre, c'est la suite. Hein, mais,
ouais, hein. Rapidement,
tu nous diras quoi, alors. Tu nous envoies. Ça va nous perturber, ça.
Bah, on entame le 17, ça, c'est clair. À mon sens, ça n'ira pas plus loin que la... La première péricope qui va jusqu'au verset 8, ça me paraît 9, peu. 8 ou 9
oui.
9, oui. Voilà. Donc là, c'est plutôt le cheminement et puis l'arrivée à Thessalonique.